avec la narchie universitaire, et les forces de l'ordre, et avec les cortèges, prestigieux, étudiants et d'autres éléments. Leur devoir tout entier, qui dressait des barricades, qui lapidait la police, qui allumait des incendies partout. Eh bien, mon gouvernement est resté maître de la rue.
J'avais 22 ans et j'étais mécanicien d'entretien au BLV. Voilà, je travaillais à la cabine électrique et je m'occupais des escalators, monte-charge, ascenseur, pompe à incendie, groupe électrogène, voilà. C'était au BHV Rivoli. C'était une énorme cabine électrique au deuxième sous-sol, où il y avait des électriciens, des mécanos et des électromécaniciens. Voilà, c'était très grand. Et il devait avoir à peu près 400 personnes, quoi, dans le magasin. Vendeurs, techniciens. Il y avait à peu près, au service technique, qui comprenait les électriciens, les mécanos et électromécaniciens, menuisier, chauffagiste, il y avait à peu près 120 personnes qui étaient aux techniques. Et il y avait trois syndicats, mais le syndicat majoritaire était la CGT. Voilà, il y avait la CFDT, bien sûr. Il y avait, je pense, EFO. Mais c'était surtout le technique qui était syndiqué, quoi. Les vendeurs, à part quelques vendeurs en quincaillerie et en outillage, qui étaient des anciens ouvriers, devaient être, je pense, aussi syndiqués. Je venais de la Lorraine, de Pont-à-Mousson. Mais avant Pont-à-Mousson, j'avais vécu à Strasbourg, jusqu'à l'âge de 12 ans. Et pour des raisons familiales, ma mère étant morte, j'avais 6 ans, et mon père ne pouvait pas me prendre en charge. C'est une tante qui m'avait élevé. Tante et un oncle. Voilà, donc je me suis retrouvé à Strasbourg. Et là déjà, à Strasbourg, tout jeune, en 58, j'ai été confronté à cette société, puisque en allant à l'école, je passais devant une caserne, et un jour, j'ai été très choqué, parce que les soldats s'étaient barricadés dans la caserne, et balançait tout sur les CRS qui les encerclaient. C'était déjà ma première expérience sur ce que c'était la société dans laquelle je vivais, quoi. Donc j'étais assez étonné, et on m'a expliqué que c'était des rappelés qui ne voulaient pas repartir en Algérie. Et voilà. Après ça, j'ai été vivre à Pont-à-Mousson, où j'ai fini ma scolarité, en communale, bien sûr. J'ai passé mon certificat d'études, et après le certificat d'études, j'avais qu'une solution, c'est d'aller travailler, quoi, voilà. Je ne peux pas en dire beaucoup plus, donc j'ai trouvé un emploi comme apprenti ajustant mécanicien à Pompée, qui était une aciérie. J'étais relativement privilégié par rapport aux autres, parce que je n'étais pas, moi, à la production. Parce qu'à la production, c'était vraiment des conditions de travail très très dures. avec le riffetage qui comportait en fait d'assembler, c'était surtout des ponts, des morceaux de ponts, des passerelles, et les gens qui étaient au riffetage chauffaient à blanc les rivets, et après avec un gros marteau les fermaient, quoi. Mais moi j'ai échappé à ça, j'étais pas... Moi je m'occupais de la réparation de l'outillage, voilà, pour ces gens-là. J'avais, oui, entre... J'avais 15 ans. 15 ans, donc j'ai travaillé jusqu'en 61 dans cette usine, à Syrie. Et après, je suis monté sur Paris, voilà. Et à partir de là, étant mineur, je me suis retrouvé dans un foyer de jeunes, quoi. D'où le directeur était un ancien colonel de parachutistes, quoi. Donc c'était véritablement l'armée. Et il y avait des gens comme moi, des jeunes mineurs, qui venaient de province, et il y avait des petits délinquants qui étaient mélangés avec nous. On allait travailler le jour, le soir on n'avait pas le droit de sortir, sauf le samedi et le dimanche. On donnait la paye au directeur, qui lui se payait pour la pension, et nous et gardait le reste, donc il nous donnait notre argent de poche. C'était nous qui étions de vaisselle après les repas, et le samedi matin, il y avait le nettoyage de la chambrée. Donc dès que j'ai pu partir de ce foyer, je l'ai fait. Et j'avais pas 18 ans encore. Et on s'est barré avec un copain en prenant l'argent qui nous était disponible. Et on est parti sur Perpignan en espérant trouver du travail. Mais en fait, on n'a jamais trouvé de travail et on est remonté à Paris, voilà. Après, on est suivi à Paris, il a fallu que je retravaille. Donc j'ai fait divers petits boulots. Alors il faut dire qu'en remontant sur Paris, j'avais quand même trouvé un autre foyer, mais celui-là, c'est un foyer... LJT, c'est-à-dire un foyer géré par l'État ou par la région, je ne m'en rappelle plus. Et c'était autre chose que le foyer, c'est un foyer jeune travailleur, quoi. Où on avait notre chambre et on payait une pension, mais on n'avait pas le droit d'accueillir quelqu'un dans la chambre. Il y avait un gardien en bas. Et c'est à Noël avant 65, quoi, 64. Il y a deux gendarmes qui sont venus et qui m'ont dit « Vous êtes bien monsieur Attel ?» J'ai dit « Oui ». Ils m'ont présenté un papier en me disant « Vous avez 15 jours ». Pour vous présenter à Reims, à la base aérienne de Reims, sans quoi vous serez considéré comme un soumis. Donc, j'ai pris acte, mais je suis arrivé quand même trois semaines en retard, quoi. Et donc, j'ai fait 16 mois d'armée. Donc on arrive à 68, Mais j'avais quand même été sensibilisé à gauche. Dans le foyer, le deuxième foyer où j'avais été, qui se trouvait à Clichy, j'avais rencontré des camarades du PSU, enfin des gens qui étaient au PSU, avec qui on discutait déjà. Mais c'est surtout syndicalement que j'avais un peu d'expérience, puisque j'avais commencé très jeune, et dans les aciéries et tout ça, il y avait quand même une syndicalisation assez énorme, surtout en Lorraine. En 67, il y avait eu des manifs en coordination avec la Samaritaine. Ben, c'est bon, il faut dire que il y avait deux sortes de magasins. Il y avait les magasins de la rue Rivoli, qui étaient à cette époque des magasins comme la Samaritaine et le BHV, étaient quand même des magasins populaires. Par contre, il n'y avait aucun contact avec les magasins des grands boulevards, tels que le Printemps ou les Galeries Lafayette. C'était surtout, c'était deux mondes à part. C'était pas. Donc, avant 68, il y avait, encore une fois, je le dis, des actions spontanées pour des revendications de salaire, pour les conditions de travail, et oui, essentiellement là-dessus, quoi. En 68, dès que j'ai appris qu'il y avait des événements qui se passaient au quartier latin, je n'avais qu'un pont à traverser et je me trouvais au quartier latin. Donc, j'avoue que dans les premiers temps, quand il y a eu l'évacuation de la Sorbonne et qu'il y a eu les premiers incidents, j'y étais par curiosité surtout. C'est pas. C'était. Mais après, je suis devenu très vite solidaire avec, avec les étudiants. Et je pense que je n'étais pas le seul ouvrier, le seul jeune ouvrier qui allait voir ce qui se passait. À cette époque, ce qui se passait au quartier latin, dans le monde du travail, enfin chez les salariés, c'était une révolte étudiante. C'était pas leur affaire. Peut-être qu'il y avait des autres jeunes hein, du BHV qui. Mais enfin, on n'était pas très nombreux comme jeunes au BHV. Peut-être qu'il y en avait d'autres hein, qui y allaient. Mais moi, de mon service, j'étais le seul à y aller. Mais je n'étais pas désapprouvé par les autres. Hein. Loin de là, quand je rentrais, ils me demandaient comment ça s'était passé. Tout ça, ils me posaient des tas de questions. Et ben, je leur racontais. Voilà. Surtout que quand je rentrais, je sentais le gaz lacrymogène. Et ils me disaient, bon, c'est pas la peine de demander où c'est que tu as été. Ben, j'ai dit non. Voilà. Donc, j'ai participé à diverses manifestations jusqu'à cette fameuse nuit des barricades qui se passait un vendredi soir. Et je me suis retrouvé à participer à la nuit des barricades. J'étais rue Gay-Lussac et à minuit, vers minuit, les flics ont chargé. Bon, il faut dire qu'avant, il y avait eu les barricades qui s'étaient montées. Il y avait eu le pylône de journaux de la rue Gay-Lussac qui avait été abattu. C'était vraiment des barricades assez hautes, avec des pavés, essentiellement des pavés. Et il y a eu, c'est vers minuit, je pense, oui, vers minuit, comme ça. Il y a eu des sommations et des fusées. mais on ne comprenait pas qu'est-ce que ça voulait dire, d'une part. Hein. Et là, les flics ont chargé, et bon, évidemment, il y a eu une résistance, mais les barricades ont été prises les unes après les autres. Et moi, avec certains camarades, puisque j'avais fait des connaissances quand même, on s'était réfugié dans un immeuble. Et il faut dire aussi que les gens n'étaient pas contre les manifestations. Au contraire, à cette époque, dans les débuts, ils lançaient des gâteaux. Quand il y avait des gaz lacrymogènes, ils jetaient de l'eau pour humidifier l'air. Donc il y avait une sympathie de la part des habitants. Donc on s'était réfugié dans un immeuble et on était monté sur une espèce de c'était un hangar qui allait à l'intérieur de... Et là, on a attendu. Et les flics ne sont jamais rentrés dans l'immeuble, quoi. Ils étaient autour, mais ils ne rentraient pas dans les immeubles, en fait. Et quand je suis sorti le matin, il y avait encore des flics. Et c'est là que... Ah oui, ça, c'est important. Moi, je ne connaissais pas Mono, le professeur Mono. Et c'est après que j'ai appris, moi j'ai vu un homme assez âgé qui escortait un jeune manifestant qui avait les yeux brûlés par les gaz et tout ça. Donc je suis sorti avec certains autres et je suis rentré chez moi, évidemment. Voilà, ça a été ma première, mon premier combat, si on peut dire, en mai, quoi. Après, s'en est suivi des successions de manifs où je rentrais seulement le matin. Pour aller travailler directement, quoi. Et est arrivé le 13 mai, où la CGT a appelé à manifester. C'était le lundi 13 mai. Et encore une fois, il y avait de la sympathie pour le mouvement, mais les gens n'étaient pas... Les travailleurs n'étaient pas vraiment prêts. D'ailleurs, ce n'était... On a toujours cru que cette manifestation, c'était une manifestation contre la répression qu'il y avait eu à la nuit des barricades, mais c'était pas vraiment ça. C'était une manifestation de revendication, si je me rappelle bien. Et... Il y avait eu au BHV un ordre de grève, mais personne n'est allé à la manifestation. J'étais le seul à y aller. Voilà. Et cette manifestation, j'étais assez surpris parce que il y avait des manifestants, des vieux manifestants, pas des travailleurs. Quand ils m'ont vu, j'étais avec d'autres jeunes, ils m'ont dit « on n'a pas besoin de vous ». Alors je lui ai dit « mais vous parlez de qui ?»« Ben vous, les étudiants ». Ben j'ai dit « je ne suis pas étudiant, je suis travailleur comme toi ». Alors il a été très étonné. Et il a dit « ah bon ?» Et j'ai dit « oui ». Il a dit « il n'y a pas que des étudiants qui participent à ce qui se passe au quartier latin. Voilà. Après le 13 mai, évidemment, je suis rentré au BHV et j'ai contacté les responsables syndicaux. J'aurais dit, bien avant l'ordre de grève générale qui était lancé le 16, ou je ne me rappelle plus quand, oui, le 16 mai, j'aurais dit, il faut se mettre en grève. Il y a des tas d'usines qui sont déjà en grève. Dans le service technique, la plupart des gens étaient prêts à partir en grève. Alors là, avec quelques camarades, on a fait la tournée des services techniques et on a été voir les menuisiers, on a été voir les chauffagistes et on leur a dit, il faut absolument qu'on se mette en grève. Il y a eu un petit moment d'hésitation et deux jours après, les gens se sont mis, le service technique s'est mis en grève, s'est mis devant la porte et a déclaré la grève. Voilà. Et il faut dire que dans les grands magasins, les grèves partent toujours des services techniques. Les vendeurs ou les vendeuses partent seulement après. Si... Mais elles aussi, je parle des vendeuses, avaient des revendications quand même assez particulières, puisque bon, elles subissaient elles aussi une hiérarchie. Et elles avaient des salaires de misère. Ça a été très vite. Donc, il faut dire qu'en BHV, il y avait énormément de flics, pas de vigiles. C'était des flics maison. Avec, à l'intérieur du BHV, un genre de commissariat. C'était voilà. Et ces gens-là, on les a virés, et c'est là qu'on a commencé l'occupation, avec les pompiers aussi, qui étaient partie prenante, parce qu'il y avait un service incendie, mais c'était des vrais pompiers. C'était en général des anciens pompiers de Paris, ou qui étaient un service très important aussi. Donc, il y a eu une partie des commerciaux, enfin des vendeurs, et la totalité du service technique qui s'est mis en grève. Donc, comme il n'y avait pas de transport, qu'il n'y avait ni métro, ni bus, ni... et pas beaucoup d'essence encore à cette époque, il y avait une minorité qui occupait le magasin. C'était ceux qui habitaient le plus près qui occupaient le magasin. Tous les jours, il y avait une assemblée pour tenir au courant des négociations qu'il y avait avec la direction. Et pour tenir au courant de ce qui se passait dans les autres magasins et dans toute la France, quoi, dans toute la France. Et après, c'était l'organisation de l'occupation, c'est-à-dire comment se nourrir, comment se loger, comment dormir, comment... Voilà. On faisait le tour des commerçants autour du BHV pour récupérer soit du pain, soit des victuailles, ce qui n'a pas mal marché. Et il faut dire aussi que il y avait des magasins sur la rue de Rivoli, il y avait des stands de produits italiens, de produits bretons, enfin bon, des produits régionaux. Non. Je dois avouer que on s'est un peu servi sur, dans les réserves de ces stands. Si bien que quand on a repris le travail, ils ont dû se ravitailler entièrement, quoi. Bon. Je l'occupais, mais je continuais aussi à aller aux manifestations. Et donc, je me rappelle une fois, je rentrais d'une manifestation qui avait eu lieu, je ne me rappelle plus où, à Denfert ou un truc comme ça. Et on était quelques-uns à aller à pied jusqu'à Saint-Michel. Et de Saint-Michel, on a vu un vendeur qui allait aux Halles avec son chariot électrique. Et on est rentré avec lui, avec ce fameux chariot électrique. On était 4 ou 5 sur le chariot. Et on est rentré au BHV. Une fois, on a été attaqué, alors je ne sais pas vraiment par qui, mais comme les mecs avaient des bérets rouges, on a pensé que c'était Occident, enfin c'était des fachos, quoi. C'était... Donc, comme on avait mis des lances à incendie, devant les entrées, on les a repoussés, mais on a été attaqué une seule fois, c'est tout. Est arrivé le départ du général de Gaulle en Allemagne, et son grand discours, et là il y avait une manifestation qui se tenait gare de Lyon, et évidemment, après le discours, il y a eu des affrontements avec la police, quoi. Et on est remonté jusqu'à la Bourse, et c'est là qu'on a essayé de la brûler. D'ailleurs, je crois qu'elle a en partie brûlé. J'allais surtout à la Sorbonne, et alors, j'avoue que je ne comprenais pas grand-chose. J'écoutais, je participais pas vraiment au débat, quoi. Je participais au débat, mais je parlais pas. Je n'avais pas, moi, la culture et le verbe qu'avaient ces étudiants. Et il y avait les étudiants en médecine qui avaient établi à l'intérieur de la Sorbonne une infirmerie où étaient soignés les manifestants contre les gaz lacrymogènes, pour les brûlures aux yeux, les petites blessures, quoi. Oui, le départ de Gaulle c'est très approuvé, ça c'est sûr. Et son discours, évidemment, quand il nous a traités de chiens en ligne, ça nous a fait un peu rire, quoi. Bon. À partir de 69, il y avait des gens qui distribuaient la taupe rouge devant le magasin. Et je suis rentré en contact avec eux. C'est là que j'ai appris qu'il y avait, à l'intérieur du magasin, des gens de la Ligue. Et donc ils m'ont donné les contacts et j'ai pris contact avec deux camarades. Une camarade qui était décoratrice et un autre camarade qui travaillait au rayon électricité ou un truc comme ça. Ouais, c'est ça. On a créé une cellule, bien sûr. Et cette cellule intervenait, évidemment, sur le magasin Rivoli et sur la FNAC, qui était juste à côté. En 70, on a décidé de se mettre en grève avec certains militants CGT, toujours à partir d'un noyau du service technique et des vendeurs aussi, parce qu'eux avaient des grosses revendications sur le temps de travail, sur les salaires, et on a essayé de bloquer le magasin. Malheureusement, grâce à l'appareil CGT qui a intervenu contre la grève, on a échoué, quoi. On a bloqué le magasin pendant une demi-journée et après on n'a pas tenu, quoi. Et on a même été dénoncé par la CGT comme étant des gauchistes. Et c'est là qu'ont commencé mes ennuis. Au service technique où j'étais, il y avait un jeune mécano aussi qui s'était fait embaucher. Et ils me l'ont mis avec moi pour réparer la Noria. Et c'est en discutant que j'ai appris qu'il était à la Ligue. Donc, ça faisait un camarade de plus dans la cellule. Mais malheureusement, ça n'a pas duré longtemps, puisque en 71, on a été licenciés tous les deux. Moi pour fait de grève, et lui aussi d'ailleurs. Mais le problème, après le plus dur, ça a été de retrouver du travail. Parce qu'à cette époque, s'il n'y avait pas Internet, ni le numérique, ni tout ce qu'il y a actuellement, il y avait le téléphone. Dès que j'essayais de monter quelque chose, une section et tout ça, bon, ça se savait tout de suite et il me foutait à la lourde, quoi. Tous les acquis des accords de Grenelle, c'est-à-dire la réduction du temps de travail, parce qu'on travaillait beaucoup plus que 40 heures. Oui, le droit de grève, qu'est-ce qu'il y a, les salaires aussi, oui, bien sûr. Oui, il y avait un changement, ça c'est sûr. On s'était pas battu pour rien, mais c'était loin de tout ce qu'on espérait. Moi, à mon niveau, j'espérais un changement de société, comme beaucoup de gens d'ailleurs. Et donc, je suis resté sur ma faim, ça c'est sûr.